Chronique d'un siècle. Une émission culturelle présentée par Jeanne Boursier sur Radio Boomerang 89.7 FM. Bonjour à toutes et à tous, Jeanne Boursier pour Chronique d'un siècle sur Radio Boomerang 89.7 FM. Tout parti politique qui aspire au pouvoir réclame la liberté de la presse. Tout parti politique qui parvient au pouvoir supprime la liberté de la presse, écrivait Maxime Ducamp en 1875 dans Paris, ses organes, ses fonctions et sa vie dans la seconde moitié du 19e siècle. La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse définit les libertés et les responsabilités de la presse française. Votée sous la Troisième République, elle signe l'arrêt de mort de l'absolue liberté d'expression, puisqu'apparaît alors le contrôle répressif qui entraîne des formalités à remplir, puisque le directeur de publication est responsable de l'action des journalistes qu'il dirige, puisque sont définies les limites de la liberté. À savoir les délits de presse envers la chose publique, les délits de presse envers les personnes, les provocations aux crimes et délits, les diffamations entre autres. Évidemment, depuis 143 ans, elle a été revue et corrigée en fonction des aléas politiques. Mais le résultat est le même. Je vous laisse écouter Frédéric Taddeï.
La liberté d'expression est totale aux États-Unis. La liberté d'expression est extrêmement réduite en France. Voilà, il faut bien l'admettre. On peut défiler pour la liberté d'expression après l'attentat contre Charlie Hebdo. Ça mange pas de pain. Mais en réalité, notre liberté d'expression est extrêmement réduite. Et elle était réduite par la loi. Pour toutes sortes de raisons, qui vont de la diffamation au respect de la vie privée, en passant par un certain nombre de lois. Contre l'apologie du racisme ou de la haine, ou pour des lois mémorielles. Pour toutes ces raisons-là, notre liberté d'expression est réduite. Il se trouve que j'ai grandi dans ce pays et que je fais comme ça aussi. J'ai pas du tout envie qu'on puisse se traiter de sale arabe ou de sale juif dans le journal. On peut le faire aux États-Unis, il n'y a pas de problème. On peut défiler en criant sale juif. En France, non. Je trouve ça mieux.
En 2024, les journalistes au service de l'État et de son idéologie condamneraient certainement le général de Gaulle pour apologie du terrorisme en entendant son discours du 27 novembre 1967.
L'an prochain à Jérusalem, Israël ayant attaqué, s'est emparé en 6 jours de combat des objectifs qu'il voulait atteindre. Maintenant, il organise sur les territoires qu'il a pris l'occupation qui ne peut aller sans oppression, répression, expulsion. Et il s'y manifeste contre lui la résistance, qu'à son tour il qualifie de terrorisme.
Mais il était alors président de la République, suite à son coup d'État de 1958, et il représentait la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, qualifiée alors de terrorisme par le gouvernement de Vichy et le Troisième Reich. Les étudiants de l'École supérieure de journalisme de Lille comprennent que la déontologie du métier est en danger, et une vague de panique parcourt le monde journalistique. Déjà en 1868, Edmond Texier, ce journaliste et chroniqueur qui traversa le 19e siècle, écrivait dans Le Journal et le Journaliste « Le journal a été une force, une puissance. On l'appelait le quatrième pouvoir de l'État. Il ne sera bientôt plus qu'un poteau d'annonce. Il y a 30 ans, pour quiconque avait vu fonctionner de près cette intelligente machine, le journal était l'œuvre par excellence. Il lui fallait à cette bête féroce dont l'appétit augmente en proportion de la pâture qu'on lui jette, des travailleurs rompus aux fatigues, des esprits prompts, clairvoyants, laborieux, soldats toujours sur la brèche, des hommes qui donnaient leur vie et leur sang à cette tâche sans fin. Une fois lancée, la locomotive allait à toute vapeur, jetant au vent la fumée de ses inspirations, de son enthousiasme, de ses colères. Les temps sont changés. Sous la Restauration, cette belle époque de la presse, le journal était un drapeau et le journaliste un soldat, le soldat d'une idée. Malherbe vint, je veux dire, monsieur de Girardin, et il entreprit l'œuvre de ce qu'il nomma la jeune presse. Il avait calculé combien la page d'annonce devait rapporter au bout de l'année quand le journal aurait atteint un certain chiffre d'abonnements. Ce jour-là, la presse mercantile fut fondée, le journal d'actionnaires, la propriété qui rapporte des dividendes et le drapeau de l'idée fit place au poteau d'affichage. L'actionnaire a tué le journal politique. En voulez-vous une preuve ? Le lendemain du 2 décembre, la rédaction d'un journal que je ne nomme pas était disposée à ne pas tenir compte des ordres expédiés du ministère de l'Intérieur et à protester contre le coup d'État. Il s'agissait d'affirmer le droit en face de la force triomphante au risque de sauter en l'air comme le vengeur. L'actionnaire accourt, effaré, suivi du commissaire de police qui met les scellés sur les presses. La caisse était sauvée. Encore une fois, on constate que le Second Empire est déjà la Ve République, ou si vous préférez que la Ve République est bien bonapartiste. Texier alla jusqu'à prévoir le journal gratuit. De ses journaux, il en paraît 3 ou 4 à chaque coucher de soleil. Cela coûte 1 sou, mais c'est cher. Et le moment n'est pas éloigné où par le progrès qui court, ça ne coûtera rien. Il y a quelques années, un industriel très connu donnait une pendule à chaque abonné d'une feuille qu'il venait de fonder. Il s'agirait tout simplement de retourner la combinaison de cet homme de génie et de donner un journal à ceux qui achèteraient une pendule. Il existait alors des journalistes qui avaient le cran d'écrire ce qu'ils pensaient des journaux et de la presse. Et rappelons-le, la révolution de 1830, dite des Trois Glorieuses, puisqu'elle se déroula sur 3 jours, 27, 28 et 29 juillet, éclata grâce aux journalistes. En effet, le 26 juillet, les ordonnances signées par Charles X sont publiées, et la première de ces ordonnances est la suspension de la liberté de la presse. Le Figaro, fondé en 1826, était alors un journal satirique hebdomadaire. Il le restera jusqu'en 1856. Le Figaro donc avait pour directeur, en 1830, Victor Bohun. Paul d'Ariste résume dans La vie et le monde du boulevard ce qui arriva en juillet 1830. Le Figaro, fondé au plus fort de la lutte des partis lorsque l'opinion se soulève de toutes parts contre le gouvernement des Bourbons, prend hardiment place à l'avant-garde de l'opposition. Et il reste fidèle au poste, toujours sur la brèche, jusqu'au jour où ses deux rédacteurs en chef, Victor Bohun et Nestor Roqueplan, signent la fameuse protestation contre les ordonnances. Le lendemain, la révolution de 1830 était faite. En 1830, pour Charles X, l'ennemi était les députés libéraux qui s'opposaient à sa volonté ultra-royaliste et à son ministre des Affaires étrangères, le prince de Polignac. En 1914, pour l'État, l'ennemi était clairement désigné. En 1939, pour l'État, l'ennemi était les bolcheviques.
Nous avons eu tort en 1939 de faire la guerre. Nous avons eu tort en 1918, au lendemain de la victoire, de ne pas organiser une paix d'entente avec l'Allemagne. Aujourd'hui, nous devons essayer de le faire. Nous devons épuiser tous les moyens pour trouver la base d'une réconciliation définitive. Je ne me résous pas pour ma part à voir tous les 25 ou 30 ans la jeunesse de nos pays fauchée sur les champs de bataille. Pour qui et pourquoi? Qu'avons-nous fait de notre victoire de 1918? Ma présence au gouvernement a une signification qui n'échappe à personne, ni en France, ni à l'étranger. J'ai la volonté de rétablir avec l'Allemagne et avec l'Italie des relations normales et confiantes. Je souhaite la victoire de l'Allemagne, parce que sans elle, le bolchevisme, demain, s'installerait partout. Ainsi donc, comme je vous le disais le 20 avril dernier, nous voici placés devant cette alternative, ou bien nous intégrer, notre honneur et nos intérêts vitaux étant respectés dans une Europe nouvelle et pacifiée, ou bien nous résigner à voir disparaître notre civilisation. Je veux être toujours vrai. Je ne peux rien faire pour vous sans vous. Nul ne saurait sauver une nation inerte ou rétive. Seule l'adhésion du pays peut faire d'une politique sensée une politique féconde. Je sais l'effort que certains d'entre vous doivent faire pour admettre cette politique. L'éducation que nous avons généralement reçue dans le passé ne nous préparait guère à cette entente indispensable. J'ai toujours trop aimé mon pays pour me soucier d'être populaire. J'ai à remplir mon rôle de chef. Quand je vous dis que cette politique est la seule qui puisse assurer le salut de la France et garantir son développement dans la paix future, vous devez me croire et me suivre.
Vous venez d'entendre Pierre Laval dans un discours de 1942. En 2024, pour l'État, l'ennemi est partout et nulle part. Ce sont les droits sociaux, les réfractaires aux passes sanitaires et aux mesures liberticides.
On va se parler franchement.
Oui, bien sûr, c'est mieux.
On va se parler franchement. Qui emmerde la vie de qui aujourd'hui ? Qui gâche la vie de nos soignants qui, depuis 2 ans, sont mobilisés sous l'eau dans nos services de réanimation pour sauver des patients qui aujourd'hui sont essentiellement non vaccinés ? Ce sont ceux qui s'opposent au vaccin. Qui gâche la vie de nos commerçants, de nos restaurateurs, de nos théâtres, de nos cinémas, qui depuis 2 ans vivent avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête quand ils n'ont pas été fermés ? Ce sont ceux qui s'opposent au vaccin. Qui gâche la vie de nos personnes âgées, qui sont contraintes de vivre dans la solitude, dans la peur face à une épidémie ? Ce sont ceux qui s'opposent au vaccin. Alors moi, je vais vous dire les choses. Nous avons toujours dit les choses extrêmement clairement. Et nous continuerons à les dire clairement. Et je vais vous dire que les propos du président de la République me semblent très en deçà de la colère d'une très grande majorité des Français face à ce choix qui est fait de s'opposer au vaccin. Vous discutez avec des Français aujourd'hui, vous en avez beaucoup qui vous disent « mais les personnes qui font le choix de ne pas se faire vacciner, on ne devrait même pas les soigner ». Nous avons toujours fait le choix, avec nos soignants, de soigner tous les Français qui étaient frappés par la maladie. Et nous continuerons à faire ce choix. C'est un choix en responsabilité. Mais la responsabilité, c'est aussi de prendre les mesures nécessaires pour protéger tous les Français. Et parfois pour protéger certains Français, y compris contre eux-mêmes. Et nous allons continuer à assumer aussi cette responsabilité. Comme l'a dit le président de la République ce matin, on agit, on explique et on assume.
Vous avez reconnu le gamin Attal lorsqu'il était le porte-parole du gouvernement. Après les réfractaires, les manifestants et les gilets jaunes et borniers, les étudiants qui bloquent leur école en soutien à la Palestine, l'islam que les journalistes associent au terrorisme, la Russie qui nationalise les multinationales étrangères et qui refuse la soumission à l'OTAN. Alors avec qui cet État est-il en paix ? Apparemment avec les actionnaires du CAC 40, Zelensky, le héros de guerre qui annule les élections et qui quémande de l'argent et des armes auprès des USA et de l'Europe, l'impérialisme américain, l'armée morale de Tsahal et le gouvernement de Netanyahou, l'Union européenne, si bienveillante avec les peuples et les travailleurs, les industriels et les banquiers.
Pouvez-vous prendre l'engagement ici, devant les Français, que parmi ces personnes les plus fortunées qui ont fait des dons importants pour vous ou pour votre campagne, il n'y a pas plusieurs cadres de l'industrie pharmaceutique, plusieurs cadres de l'industrie chimique et pétrolière, plusieurs
mais
cadres
attendez,
de l'industrie bancaire
qui pour... Même,
je vous demande cela, c'est tout. Est-ce que vous pouvez me le dire, cela ?
Mais, monsieur Hamon, d'abord, je ne fais pas un contrôle d'identité.
Non,
l'identité, elle est transmise à la Commission nationale.
Mais c'est ensuite, juste, est-ce que cet engagement, vous pouvez le prendre ?
Mais attendez, ça n'a aucun sens. L'identité...
Je pense que ça a beaucoup de sens, moi.
Mais je vais vous dire, l'identité, elle est protégée par la loi. Elle est protégée
mais
par la loi.
Vous savez bien de quoi je parle, monsieur Macron.
Mais vous pouvez.
Demain, vous allez peut-être.
Vous pouvez.
Vous allez
là,
peut-être
vous êtes en train d'assumer des choses.
Mais laissez-moi, je vous fais
je vous
confiance.
Dis juste que...
Mais je vous dis juste que demain, quand il s'agira, vis-à-vis des perturbateurs endocriniens,
oui,
de prendre les décisions et pas d'attendre qu'il y ait forcément un substitut A. Quand il s'agira vis-à-vis du diesel, qui est responsable de l'émission de particules fines qui font plus de 50 000 morts par an, il faudra prendre des engagements et ne pas être tenu.
Alors,
lié par ceux qui ont financé votre campagne.
Je vais vous dire, je vais être totalement clair, je prends l'engagement de n'être tenu par Personne, monsieur Hamon. Personne.
Mais donc vous prenez l'engagement.
Vous n'allez pas privatiser le débat,
j'en prends l'engagement solennel. Je ne suis tenu par
monsieur
personne.
Monsieur Fillon est encore très
libre.
Très en retard.
Le financement est transparent. Il est soumis à une commission.
Mais nous ne
les donateurs
pas,
sont
nous
protégés
pas,
par la loi.
Vous continuerez cette conversation.
C'est un débat à 5.
Vous avez reconnu Benoît Hamon et Macron lors d'un débat politique avant les élections. Et nos journalistes s'opposent-ils, comme en 1830, à un gouvernement autoritaire et défenseur des classes les plus aisées? Non, ils préfèrent, comme en 1945, collaborer, défendre, propager la parole du gouvernement et des dominants. Je laisse la parole à Stéphane Hessel.
Indignez-vous, un petit livre dans lequel vous invitez les jeunes générations à faire vivre l'héritage de la résistance, donc à s'indigner, mais vous appelez aussi les responsables politiques et économiques. Ils ne doivent pas se laisser impressionner, dites-vous, par l'actuelle dictature internationale des marchés financiers qui menace la paix et la démocratie. Pour vous, c'est la dictature des marchés financiers qui exige une réforme des retraites?
Ah oui, et puis ce petit livre, il ne coûte que 3 euros, hein. Alors on peut le diffuser largement.
C'est un tract.
Bien entendu, le mal derrière tout cela, c'est le déséquilibre de l'économie financière qu'on a laissé aller sans régulation jusqu'à rendre le monde actuel ingérable. Et les valeurs fondamentales qui devaient, le Conseil national de la résistance l'exigeait, nous débarrasser des féodalités économiques, eh bien, ces valeurs-là, il faut que les jeunes les comprennent, s'indignent lorsque ces valeurs sont bafouées, comme elles le sont dans pas mal de régions du monde.
Et maintenant, un petit intermède avec les journalistes de Coluche.
Et puis alors aussi, il y a la télévision. Alors, la télévision, c'est un truc, les gens, il y a des mecs qui disent, les gens, ils bossent toute la journée, ils n'ont pas le temps de s'occuper de tout ce qui se passe partout, tout ça. Hein? Alors nous, on va ramasser les informations, puis on leur dira le soir. Alors ils viennent et ils vous font le journal télévisé. Alors ils se pointent à 8h, avec des tronches de premier de la classe. On se demande où ils les ont trouvés, hein, parce que dans nos classes, il n'y en avait pas des comme ça. Hein. Sans ça, on les aurait battus tout petits, ils ne seraient jamais arrivés jusqu'à là. Et alors, mais tellement coiffé par Brochy, bonjour, moi c'est Brochy, oui, moi aussi, enchanté, oui. Mais c'est ma soeur, Brochette, bon. Les appareils. Et alors, ils vous font les informations. Alors moi, j'ai pris les notes, moi. Les journalistes, ils disent que je dis des conneries, maintenant je vais dire les leurs. Attention. Je sais que les mecs qui font le journal, ils se mettraient du rouge sur le nez, ils feraient marrer, hein. Mais j'ai demandé, ils veulent pas. Alors, attention. Bon, rien qu'en Brochy, il y en a pour un fric fou, hein. Le chancelier allemand a été reçu cordialement par le président de la République. Bon, ben c'est gentil de le dire, on s'en fout, on l'avait pas invité, mais enfin il est là. Donnez-lui une chaise, bon voilà. Reçu cordialement par le président de la République, qui a descendu 2 marches pour l'accueillir. Le journaliste qui s'emmerdait, il s'est dit, je vais compter les marches, hein. Allez. C'est 2 marches pour l'accueillir en signe de détente. Ah, attendez, c'est de la diplomatie. 2 marches, c'est en signe de détente. S'il reste sur le perron, il boude un peu, vous voyez. S'il descend 2 marches, 1, 2. Ah, détente. Et alors, si vraiment il n'est pas content, non seulement il ne vient même pas sur le perron, mais il envoie le premier sinistre à sa place. La poitrine, attention, c'est pas tout. Restez couverts. La poignée de main a été longue et chaleureuse. Voilà un truc dont on n'a vraiment rien à foutre, alors. Hein, c'est les leurs, les mains. Ils se les lavent après, ils se démerdent, hein. Les chefs de gouvernement se sont refusés à tout commentaire. Ah, alors là, le journaliste avoue, il ne sait rien. Vous voyez, il est allé à Orly, il a tendu son micro, qu'est-ce qu'il est venu faire, je vous le dirai pas. Et vous, qu'est-ce qu'il est venu faire, je vous le dirai pas. Merci à vous, Cognac G. Bon. Ouais, Cognac G, c'est un mec qui est branché, puis qui écoute tout, oui, alors qu'est-ce qu'il faut noter, bon. Le café, bon, ah bon, bon. Les chefs de gouvernement se sont refusés à tout commentaire, c'est-à-dire circuler, il n'y a rien à voir. Allez, hop, là. Mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pas, vous, hein. On vous a pas demandé. Allez hop, circulez, allez hop là. C'est un endroit où il y a des mecs qui viennent pour s'autoriser à penser des trucs. Qu'est-ce que tu fais là? Ben, je vais peut-être m'autoriser à penser un truc. Mais j'hésite parce qu'après je vais peut-être m'engueuler, je sais pas. Mais qui s'autorise à penser. Non mais rigolez pas, c'est avec votre pognon. Ben oui, c'est pas avec le leur. S'autorise à penser dans les milieux autorisés qu'un accord secret pourrait être signé prochainement entre les deux pays. Alors le mec, il s'autorise à penser, on lui a rien demandé, qu'un accord secret, c'est-à-dire dont on ne saura jamais rien, pourrait être signé, c'est même pas sûr. Et moi je dis que quand un journaliste, il n'en sait pas plus que ça, il devrait être autorisé à fermer sa gueule.
C'est en 1918 que fut rédigée la Charte des devoirs professionnels des journalistes français, qui sera révisée en 1938 et en 2011. On la doit au Syndicat national des journalistes. Les règles éthiques engagent chaque journaliste qui doit rechercher, vérifier, situer dans son contexte, hiérarchiser, mettre en forme, publier une information de qualité. Car le journalisme n'est pas de la communication. Le journaliste doit avoir une sécurité matérielle et morale pour rester indépendant. Il ne peut être contraint à accomplir un acte ou exprimer une opinion contraire à sa conviction ou à sa conscience professionnelle. Dans ces conditions, il respecte la dignité d'autrui et la présomption d'innocence, défend la liberté d'expression, ne travaille jamais dans une intention intéressée, ne diffuse des informations qu'après les avoir vérifiées avec la plus grande vigilance. Ces piliers sont l'esprit critique, la véracité, l'exactitude, l'intégrité, l'équité, l'impartialité. Et maintenant, je vous laisse avec Dieudonné.
Bonjour, je me présente Catherine Petiron. Je peux vous poser quelques questions ?
Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, c'est le personnage ?
Oui, c'est le personnage.
Eh, c'est bien fait, hein. Dans le regard, on a l'impression que c'est tiens, le chien d'autre. Ah, ouais, tu t'es fait avoir, toi, c'est... Ah, ouais, ferme-la, par contre, ferme ta bouche. Ouais. C'est incroyable, hein, c'est bien fait. Hein. Alors comment, Madame Cornichon, comment t'as dit ?
Non, on a dit Potiron.
Potiron, d'accord. Vous êtes journaliste, c'est ça ?
Oui, alors non, pas tout à fait. Je suis en fait en école de journalisme actuellement.
Ah, ça va ? Ça existe encore, ça, les écoles de journalisme ? À mon avis, ça va disparaître avec Internet, c'est foutu. Hein. Aujourd'hui, un mec avec un smartphone, c'est un journaliste. Hein. Donc à mon avis, vous êtes jeune, trouvez-vous notre formation, un vrai boulot. Hein, parce que là, c'est vous aimez parler aux gens, c'est ça ?
Oui.
Ah ben, faites coiffeuse. En plus, c'est des écoles payantes à tous les coups, c'est ça ? Les parents, ouais, mettez-vous à la place des parents aussi.
Mais enfin, c'est la moitié qui est payante. Ah. L'autre moitié, c'est l'État.
Ah, c'est nous qui payons l'autre côté ?
Bah oui.
Ah, non, mettez mon nom, moi je me retire du projet. Attends, je vais pas commencer à cotiser pour des journalistes qui me crachent à la gueule. Ça suffit, je suis pas maso, hein. Vous allez mettre quoi dans votre article ? Que je suis une ordure, un raciste, un antisémite ?
Ah non, pas du tout,
ça. Ah ouais, mais t'es obligé, sinon ça sortira jamais ton truc, est complètement taille. Vous allez mettre que je suis un mec bien ?
Non, pas forcément.
Ah,
non plus,
bon, vous avez des bases quand même.
C'est juste que comme vous êtes une personne médiatisée très controversée, je m'étais dit que ça serait intéressant.
Qu'est-ce que c'est que ces adjectifs très controversés là ? Qu'est-ce que c'est que ces histoires, des adjectifs israéliens là ? Tu me baiseras pas la gueule, toi. T'es pas controversé, toi, ta petite gueule, là ? C'est pas controversé. Valls, il est pas contre. Pourquoi le préciser quand c'est moi ? Non, mais tu vois, là, on est dans un sketch. Mais fais très attention à ta petite gueule. J'étais à deux doigts de te cracher à la gueule, je préfère te le dire. Je vais pas te mettre mal à l'aise. Hein. Mais fais très attention à toi.
Hein. Donc c'est dans le...
Bon, c'est fini, j'en ai marre. Je vais aller faire caca, qu'est-ce qui se passe ?
Non, on n'a pas encore commencé en fait. C'est dans le cadre de mes études, je prépare actuellement un mémoire.
Quoi ?
Le sujet.
C'est un devoir de mémoire ?
Oui.
Je n'ai rien à voir dans cette histoire, d'accord ? Je n'étais pas là, moi, avec cette histoire de mémoire. Nous, on était en Afrique. Hein. Non, rien à voir. Donc ne viens surtout pas m'emmerder avec ta mémoire. Quoi. Chacun sa mémoire. Je me démerde avec ma mémoire, tu te démerdes avec ta mémoire.
Je crois qu'on s'est mal compris.
Ouais, j'ai très bien compris où tu veux en venir.
Non, en fait, je prépare un devoir de mémoire pour mon école et le sujet, c'est la liberté d'expression. C'est pour ça que j'avais pensé à vous.
D'accord. Vous êtes Charlie, c'est ça? Ah, bonjour Charlie, je m'ai reconnu. Ah ben oui, avec le pyjama, j'ai trouvé Charlie, il était à côté de moi. T'as paumé ton volet. Vous étiez Charlie au moment des attentats de Charlie Hebdo, peut-être?
Oui, quand même.
Ah bah oui, non. C'est bien, mademoiselle. Vous avez manifesté dans la rue, tout ça?
Quand même.
Ah bah ouais, alors là, ça... Là, il fallait... Hein. Vous êtes peut-être même abonné à Charlie Hebdo, non?
Ah non.
Oh, vous êtes un peu rebelle, dis donc. Non, vous avez raison, c'est vraiment de la merde, ce journal. Depuis le départ, j'ai jamais acheté un truc comme ça.
Vous. Je me demandais justement à propos de ça, vous vous sentez encore, Charlie Koulibaly?
Ça y est, on est sur le terrain judiciaire, on est parti. Tu sors les dents, allez, on est parti. Effectivement, à un moment donné, sur mon parcours, je me suis senti Charlie Koulibaly. Je me suis senti humoriste traité comme un terroriste. Je me suis senti entre le couteau et la plaie, voyez-vous ? Entre la victime et le bourreau. Ah. Mais bon, les flics sont venus me chercher à 6h du matin chez moi. J'ai été condamné 2 fois de suite, donc je ne me sens plus du tout. Vous mettez... Je ne me sens pas à un niveau... Ah, j'ai même perdu le sens du goût. Je n'ai plus le goût de... La démocratie n'a aucun goût pour moi. Il y a même un petit arrière-goût de pisse, même, derrière. Quand tu le...
Alors, deuxième question. Vous croyez à la théorie du complot?
C'est bien ou pas d'y croire? Non, alors, mais j'y crois pas.
D'accord.
Et j'incite les gens à croire dans la version officielle du gouvernement. Ce sont des gens bien, quand même. Oh. Sensationnel. Oh. Et les médias aussi, super. Vraiment, on a... BFM, numéro 1. Et 2 et 3, même. Elles sont les 3 premières places. Hein. C'est des gens, ils ne mentent jamais. Jamais. Ça peut arriver, mais toujours de bonne foi.
Oui.
Ah, bon, allez, c'est terminé, là, parce que j'en ai plein dessus, là.
Dieudonné Mbala a été plusieurs fois interdit, condamné, diffamé. En revanche, Nicolas Bedos a pu, sans problème aucun, insulter publiquement Dieudo et aussi les jeunes arabes lors d'une émission télévisée.
C'est avant tout pour surfer sur la vague bleu marine tendance vert de gris de l'ennemi comique numéro 1, l'irrésistible Dieudonné Mbala, 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 etc. Je lui dis bonjour jeune homme. Je vous pardonne volontiers d'avoir craché sur mes souliers, mais moi c'est Bedos, Bedos avec un B, comme bienvenue en France, mais restons calmes tout de même. Hein. Et je ne dis pas bravo à ce con de Diodo qui a kidnappé l'humour sur les feuges et les rebeux pour mieux servir une soupe cuisinée à Berlin dans les années 40. Merci Diodo, bravo l'idiot. Maintenant, à cause de toi, tous les politicards tricards, les assos de parano et autres gens pas drôles vont mettre le nez dans nos vannes. D'ailleurs, avant de partir, moi aussi, je vais te faire une petite quenelle maison. Mais ma quenelle à moi, elle mélangera jamais la barbaque du FN, la misère des banlieues et la bande de Gaza. Non, ma quenelle à moi, elle se cuisine à toutes les sauces, celle de la Palestine, oui, mais aussi celle du respect de la Shoah et de la lutte contre l'antisémitisme primaire. Bref, ma quenelle à moi, ça s'appelle une merguez. Et je te l'enfonce dans ton gros cul de breton inculte. Car c'est un véritable honneur de merguezer profond la rondelle de facho. Et je te la glisse partout, à Paris, à Tokyo, devant les pyramides, en haut de la tour de Pise. Regarde un peu le nombre de merguez que ton petit cul réclame. C'est fou tout ce qu'on peut mettre dans un type qui n'a pas de fond.
Ce choix d'un gouvernement socialiste d'interdire le spectacle d'un humoriste marque le retour à la censure.
Répression, répression.
Alors, on garde son sang-froid? Aïe, oh, pardon, je vous ai écrasé le gros orteil, je suis des brigades d'intervention.
Répression, répression, répression.
Vous êtes qu'un passant. Mais maintenant, pour les manifestants, les grenades, on les tire à bout portant.
Répression, répression, répression.
répression. On a supprimé les pavés, on a bitumé la chaussée pour faciliter la circulation. Les trottoirs, c'est pour nous, la rue est à nous. Je m'ennuie. Vos papiers, si vous avez les cheveux longs ou un faciès d'une drôle d'espèce, mais si les cheveux vous les portez courts, on vous mettra pas dans les fours. Répression, répression, répression. Douce majorité silencieuse, pas d'opinion, pas de délit d'opinion, pas de pression, pas de pression. À votre avis, pourquoi on met pas Jean-Paul Sartre en prison? Pas de pression. C'est pas un homme convenable, refuse les prix Nobel, respecte pas les institutions. Et qu'est-ce qui fout sur un tonneau chez Renault? Chacun son poste. Nous, c'est les trottoirs. Je m'ennuie. Répression, répression, répression. Liberté de la presse, quelle ivresse! On couche avec les princesses par procuration. Journaux à grand tirage affichent dans le métro, sur les grands boulevards. Font rage de fesses et seins roses, bon, bon. Mais attention, attention, attention. Faut pas faire l'idiot national ou international. Faut pas vendre des journaux, encombrer les marchés. Faut laisser circuler la majorité. Répression, répression, répression. Clac ! Les vieillards sont atterrés par les jeux de questions posées par leur canard préféré. Salut les cops ! Hein ? Manger de la soupe fait grandir, vrai ou faux ? Bla 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 bla. Vite! La masturbation rend fou. Oh. Vrai ou faux? Black! Coup de grisou chez les mineurs. Ils sont en danger. Harakiri rikira, harakiri rikira, harakiri rikira, le dernier. Chez les colonels, on peut encore avoir un parterre de fleurs rouges devant sa maison, ou si flotter n'importe quelle connerie de la télévision, on nous mettra pas en prison. Ah mais non, ah mais non. Mais attention, attention, où va-t-on, où va-t-on? C'est vrai, faut faire le procès de la vitesse. Le Nord-Vietnam en deux temps trois mouvements. Et pour les secours au Pakistan, on a tout le temps, on a tout le temps, on a tout le temps. Suspicion, suspicion, suspicion. C'est présumé coupable par le juge d'instruction. Loi contre la drogue. On peut venir vous trouver de jour ou de nuit dans votre lit. Vous êtes présumé coupable par le juge d'instruction. Attention, attention, va-t-on, va-t-on. Et si ça continue comme ça, un jour on verra peut-être les magistrats, les lycéens, cul à cul dans la rue. Répression, suspicion, où va-t-on, où va-t-on. Jusqu'où ira-t-on, 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 ira-t-on.
Vous venez d'entendre Répression de Colette Mani, qui aujourd'hui s'offusque du traitement médiatique réservé à ceux qui rejettent les doctrines successives imposées par le gouvernement. Est-il normal, pour nos journalistes, que le président insulte une partie de la population en les emmerdant ? Est-il normal que des militants syndicalistes soient condamnés pour soutenir la Palestine ? Est-il normal que des députés soient convoqués par la police pour apologie du terrorisme ? Au fait, sont-ils fichés S ? La liberté serait-elle synonyme de sécurité ? Laissons la parole à Darmanin pour comprendre à quel point de répression est arrivée la France.
Combien de fichés S ont été exclus au total, retirés pour l'instant de l'Organisation Générale des Jeux ?
100. 102, exactement. Pour les agents de sécurité privés, sur les 20 000 agents de sécurité privés, et 15 sur les 18 000 personnes qu'on a déjà contrôlées pour le comité d'organisation des Jeux Olympiques, les bénévoles, on a encore 800 000 personnes à contrôler.
Alors, verre à demi-plein, on se dit bravo, vous avez repéré assez vite. Verre à demi-vide, on se dit que ça attire visiblement, parce que pour être fiché et vouloir avoir ce genre de fonction, c'est qu'on a vraisemblablement des idées derrière la tête.
Sans doute, en tout cas c'est ce qu'on pense au ministère de l'Intérieur, mais ce n'est pas que des islamistes radicaux qui voudraient passer à l'acte. Encore une fois, ça peut être des gens de l'écologie radicale qui voudraient éteindre la flamme, pouvoir montrer devant le monde entier leur cause. Nous aussi, nous les écartons, donc je veux bien dire aux Français que ce ne sont pas que des gens qui sont potentiellement des terroristes, c'est aussi des gens qui veulent contester fortement cette cérémonie.
On voit bien qu'il y a cet univers des fichiers S. Alors, combien aujourd'hui y a-t-il de fichiers S en France, au total ?
Il y a 5007 personnes qui sont inscrites dans ce fichier au nom de l'islam radical. Ouais. Il y en a d'autres pour d'autres raisons, l'ultra-droite ou l'ultra-gauche, par exemple.
Le 8 mai est fêtée la victoire de 1945 contre la barbarie. À l'époque, les journalistes collaborationnistes aux ordres de la propagande et de l'éducation du peuple ne laissaient pas beaucoup d'espoir à un possible renversement de régime.
Goebbels et Hitler étaient conscients que l'oppression et la terreur ne peuvent à elles seules fournir une base de pouvoir durable. La mission du ministre de la propagande consiste alors à séduire et à guider les foules. Selon les mots de Goebbels, l'objectif est de marteler et polir les esprits jusqu'à ce qu'ils nous soient entièrement acquis, et d'atteindre une mobilisation des esprits au service du national-socialisme. À cette fin, son administration s'assure un contrôle total du paysage culturel et médiatique et le soumet au processus de mise au pas. Une machinerie d'endoctrinement est ainsi créée, qui exerce une influence sur l'état d'esprit de la population, aussi bien sur un mode agressif que de manière subtile. Le contrôle de la presse est une tâche clé. Cela passe par l'interdiction de journaux qui ne sont pas bien vus, par l'intimidation et l'expulsion de dissidents, ainsi que par la surveillance des rédactions. La conférence de presse du gouvernement du Reich, qui se tient chaque jour devant des employés triés sur le volet, est un instrument de contrôle important. À cette occasion, on tire au clair ce qui figurera le lendemain dans le journal.
Tout cela donne à naissance, lors du Conseil national de la Résistance, aux ordonnances de 1944, sur la liberté de la presse, dont le programme nommé « Les jours heureux » annonçait, entre autres, la pleine liberté de pensée, de conscience et d'expression, la liberté de la presse, son honneur et son indépendance à l'égard de l'État, des puissances d'argent et des influences étrangères, la liberté d'association, de réunion et de manifestation. L'émission se termine et je vous laisse avec d'anciens résistants qui, en 2005, avait réédité un appel.
À ceux et à celles qui feront le siècle qui commence, nous voulons dire avec notre affection, créer, c'est résister. Résister, c'est créer.
Au moment où nous voyons remis en cause le socle des conquêtes sociales de la libération, nous, vétérans des mouvements de résistance et des forces combattantes de la France libre, appelons les jeunes générations à faire vivre et retransmettre l'héritage de la résistance et ses idéaux toujours actuels de démocratie économique, sociale et culturelle.
60 ans plus tard, le nazisme est vaincu grâce au sacrifice de nos frères et sœurs de la résistance et des nations unies contre la barbarie fasciste. Mais cette menace n'a pas totalement disparu. Et notre colère contre l'injustice est toujours intacte.
Nous appelons, en conscience, à célébrer l'actualité de la résistance, non pas au profit de causes partisanes, mais pour proposer aux générations qui nous succéderont d'accomplir trois gestes humanistes et profondément politiques au sens vrai du terme pour que la flamme de la résistance ne s'éteigne jamais.
Nous appelons d'abord les éducateurs, les mouvements sociaux, les collectivités publiques, les créateurs, les citoyens, les exploités, les humiliés, à célébrer ensemble l'anniversaire du programme du Conseil national de la résistance, adopté dans la clandestinité le 15 mars 1944, et qui préparait
la sécurité sociale et les retraites généralisées, le contrôle des féodalités économiques, le droit à la culture et à l'éducation pour tous, une presse délivrée de l'argent et de la corruption, des lois sociales, ouvrières, agricoles, etc.
Comment peut-il manquer aujourd'hui de l'argent pour maintenir et prolonger ces conquêtes sociales, alors que la production de richesses a considérablement augmenté depuis la libération, période où l'Europe était ruinée? Les responsables politiques, économiques, intellectuels et l'ensemble de la société ne doivent pas démissionner, ni se laisser impressionner par l'actuelle dictature internationale des marchés financiers qui menace la paix et la démocratie.
Nous appelons ensuite les mouvements, partis, associations, institutions et syndicats héritiers de la résistance à dépasser les enjeux sectoriels et à se consacrer en priorité aux causes politiques des injustices et des conflits sociaux. Nous les appelons à définir ensemble un nouveau programme de résistance pour notre siècle, sachant que le fascisme se nourrit toujours du racisme, de l'intolérance, de la guerre, qui eux-mêmes se nourrissent des injustices sociales.
Nous appelons enfin les enfants, les jeunes, les parents, les anciens, les grands-parents, les éducateurs, les autorités publiques à une véritable insurrection pacifique contre les moyens de communication de masse. Ils ne proposent comme horizon pour notre jeunesse que la consommation marchande, le mépris des plus faibles et de la culture, l'amnésie généralisée et la compétition à outrance de tous contre tous.
Nous n'acceptons pas que les principaux médias soient désormais contrôlés par des intérêts privés, contrairement au programme du Conseil national de la résistance et aux ordonnances sur la presse de 1944.
Plus que jamais, à ceux et à celles qui feront le siècle qui commence, nous voulons dire avec notre affection, résister c'est créer, créer c'est résister.
Bonne journée à toutes et à tous. Au revoir. Chronique d'un siècle. Une émission culturelle présentée par Jeanne Boursier sur Radio Boomerang 89.7 FM.